Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le vendredi 31 octobre 2025. Alors mon job, c'est de vous raconter ce qui s'est passé hier et ce qui se raconte dans les médias depuis hier soir. L'idée de base, c'était de vous pré-mâcher le travail et de vous éviter de passer 3 heures à chercher des infos qui tiennent la route. Donc, je me lève très tôt le matin et je commence par vous raconter ce qui s'est passé la veille. Et ce matin, j'aurais pu entamer ma chronique en vous parlant du fait que l'on a vécu une journée de merde à New York, que les résultats de Meta ont fait prendre conscience qu'on dépensait dans tous les sens pour l'IA et n'importe comment. Et puis, j'aurais pu vous dire que ça commençait enfin à baisser. Sauf que non. Donc, si vous vous êtes absenté entre la clôture de mercredi soir et ce matin, que vous revenez à l'instant et que vous allumez vos écrans, vous n'allez plus rien y comprendre. Bon, après, il y a une logique dans tout ça, hein, une logique qui fait des fois un peu peur, parce qu'on se rend compte qu'actuellement, si on rate une demi-session, on a intérêt à avoir une excellente raison, parce que c'est peut-être l'occasion du trimestre de pouvoir racheter sur faiblesse. Vous savez, le fameux « buy the dip ». Oui, parce que si on prend un peu le temps de se souvenir ce qu'a fait le marché durant le mois d'octobre, il n'y a pas besoin d'avoir une mémoire d'éléphant et d'être physicien nucléaire pour se rappeler que globalement, on n'a fait que monter, ou presque. Alors oui, on a eu 2-3 soubresauts quand Trump nous a fait une période taco contre la Chine il y a quelques semaines, mais l'un dans l'autre, eh bien, ce mois, il valait mieux être bullish que bearish. En général, c'est le cas toute l'année, mais là, encore plus. Nous allons donc revenir un poil en arrière et essayer de se souvenir ce qui s'est passé entre 18h30 mercredi soir et hier soir très tard. Je récapitule, et si ma mémoire de poisson rouge fonctionne correctement, mercredi soir, il y a d'abord eu Powell qui a baissé les taux et qui a plus ou moins laissé entendre que la baisse des taux de décembre n'était pas encore un coup sûr. Il a justifié ça de par le fait que, selon ce qu'on sait, le marché de l'emploi ne va pas si mal. Bon, là, je vais juste faire un intermède. Non, parce que je voudrais bien qu'on m'explique comment le gars, il arrive à nous dire que l'emploi ne va pas si mal que ça, alors que les derniers chiffres que l'on connaît au niveau de l'emploi officiel, c'est ceux du mois d'août. Alors oui, d'accord, il est certainement mieux informé que moi, mais quand même. Souvenons-nous que tout de même que les USA sont toujours sous shutdown et que visiblement c'est pas prêt de se terminer et que de plus en plus d'employés de l'État qui sont en train de se luger devant la télé et qui ont bientôt fini tout Netflix commencent à trouver le temps long. Mais bon, passons. On va faire confiance à Powell et enregistrer dans un coin de nos têtes que l'emploi ne va pas si mal et que les taux ne sont pas certains de baisser. On en reparle en décembre. Juste après Powell, on a eu droit à Google qui a fait nettement mieux que les attentes et qui a été encensé par la critique et les experts du monde merveilleux de la finance lui trouvent tous des qualités indéniables, de gendre parfait et en plus d'être un des meilleurs plays pour jouer l'IA, en dehors de la star incontestée Nvidia, Google prenait 2,5% hier. Et puis on a eu Microsoft qui a publié des chiffres et un trimestre que l'on qualifiera d'exceptionnel mais qui était un peu timoré sur la guidance et le marché le lui a fait payer cash. Le titre baissait 3%. Et puis Meta a fâché tout le monde. D'abord ils ont pris une charge comptable qui fait que leur bénéfice par action s'est fait déglinguer et puis ensuite les experts sont unanimes, Zuckerberg dépense trop et il faut le lui faire comprendre en massacrant Meta de 12%. Vous rajoutez ensuite à ça le deal de Trump avec Xi Jinping qui était noté 12 sur 10 de la part du président qui a réglé le problème des terres rares et des droits de douane et invité Xi à Washington, et vous aviez une journée placée sous le doute et les prises de profit. Je n'invente rien, le Dow Jones a perdu 0,23%, le S&P 500 reculait de 0,99%, et le Nasdaq parvenait à baisser de plus de 1,5%, ce qui est totalement exceptionnel dans cet environnement où nous sommes programmés pour acheter dès que le Nasdaq passe la barre des 1% de baisse. Bref, hier on a baissé, pour une fois, et le S&P 500, je le rappelle, était en baisse de 0,99%. 0,99%, c'est presque 1%. Du coup, on a traqué la bonne nouvelle et le chemin était tout tracé puisqu'Amazon et Apple ont publié des chiffres de folie hier soir after close. Tout le monde n'est pas d'accord sur l'excellence des chiffres de ce trimestre, surtout chez Amazon, mais l'un dans l'autre, ça a quand même fait le taf, et hier soir, tard, la journée sur laquelle Microsoft et Meta ont pesé de tout leur poids s'est inversée comme une fleur, comme si le buy the dip était dorénavant devenu un réflexe pavlovien. Ce matin, les futurs sont en hausse de 0,7%, et encore, si vous étiez levé un peu plus tôt, vous l'auriez vu encore bien plus haut. On peut dire que si ça continue à ce rythme-là, les deux géants auront sauvé la séance de la veille. Amazon a sorti des chiffres de folie, plus 13% after close, bénéfice de 1,95$ par action au lieu de 1,57 et 180 milliards de chiffre d'affaires. AWS, le cloud maison, cartonne à plus 20%, mieux que prévu, mais nettement moins bien que Microsoft, mais mieux que prévu quand même. Une croissance qu'on n'avait plus vue depuis 2022. Pendant que Google et Microsoft avancent à 34 et 40% respectivement en termes de croissance du cloud, Amazon se repositionne dans la course à l'IA avec son nouveau data center à 11 milliards dédié à Claude, le chatbot d'Anthropic. Amazon relève son budget d'investissement à 125 milliards pour 2025, parce que faut ce qu'il faut. Tout le monde reproche à Zuckerberg de trop dépenser, mais là, pas là. Dans la foulée des investissements, on licencie quand même même en masse, mais que l'on se rassure, c'est juste culturel et pas financier selon le management. Les licenciés en question apprécieront d'être des dommages collatéraux culturels pour faire plaisir à Bezos et à sa poupée en plastique. En conclusion, Amazon a fait 17,4 milliards de profits opérationnels, plombés par une amende de 2,5 milliards et 1,8 milliard de coûts de licenciement. Amazon gagne plus, dépense plus, licencie plus, et Wall Street adore. Et visiblement, on a retrouvé nos vieilles habitudes. Plus on vire de gens, plus l'action monte. Le titre explosait même hier soir. On notera quand même qu'il y a des voix qui s'élèvent. Amazon a beau afficher des chiffres records, plusieurs analystes doutent du fond. D'abord, les marges stagnent et les profits sont gonflés par des ajustements exceptionnels. Ensuite, la frénésie d'investissement dans l'IA inquiète, 125 milliards dépensés, mais le retour reste flou. Surtout avec l'IA, c'est pas la première fois que les retours sont flous. Et puis AWS ralentit face à Microsoft et Google, qui le distancent sur la croissance du cloud. Et pour terminer, le cash flow s'effrite et beaucoup se demandent si Amazon ne rachète pas sa gloire passée à crédit. L'annonce d'hier fait donc exploser Amazon, mais derrière le rideau, il y a encore des choses à discuter. Il n'y a pas qu'Amazon qui sait faire la fête. Apple a encore prouvé qu'elle savait briller et qu'elle sait bien présenter les chiffres avec des beaux PowerPoint. Plus 10% de croissance de chiffre d'affaires, plus 13% pour l'iPhone, plus 15% pour le Mac. Le tout salué comme un trimestre exceptionnel par Tim Cook, qui n'a jamais été aussi satisfait de sa machine à cash. Le groupe a encaissé 94 milliards de dollars de revenus et 24 milliards de bénéfices nets. Rien que ça. Mais derrière les paillettes, il y a quelques taches sur la pomme qui pourraient pourrir si on ne croque pas dedans rapidement. Les iPads déçoivent, moins 8%, les AirPods et les montres connectées s'essoufflent, moins 9%, et la croissance chinoise soudain revenue, plus 4%, doit plus son bon résultat à une subvention de Pékin qu'à un engouement délirant du consommateur chinois. En clair, la plus belle entreprise du monde doit désormais sa santé à un petit coup de pouce du parti, et en tout cas pour ce trimestre. Côté communication, Cook a sorti le joker du moment, l'intelligence artificielle. Il promet d'augmenter significativement les investissements, d'intégrer l'IA partout et de réinventer l'expérience Apple. Pour le moment, on n'a encore rien de concret, mais ça sonne bien en conf-call. En attendant, tout repose sur l'iPhone, 44 milliards de ventes ce trimestre, dont une partie dopée par les clients qui ont acheté avant les tarifs douaniers de Trump. Apple avance, engrange, hypnotise les marchés, mais la dépendance au téléphone star et à la façade IA pour faire moderne commence à sentir le réchauffer. Bref, le royaume de Tim Cook tourne toujours comme une montre suisse, sauf que la batterie commence tout doucement à chauffer. Le titre prenait quand même 2,6% hier soir et se trouve actuellement au plus haut de tous les temps et vaut plus de 4000 milliards. De market cap. En gros, hier, on a eu des doutes à cause de la fête de Meta et des dépenses pour l'IA, mais hier, Amazon et Apple ont effacé ces doutes parce qu'on est devenu expert en déchiffrage de bilan tout en sachant mettre de côté ce qui ne va pas. Les marchés asiatiques ont démarré la journée en ordre dispersé. Le Japon et la Corée du Sud ont poursuivi leur envolée record, dopés par la folie des valeurs tech et des semi-conducteurs, pendant que la Chine, elle, s'enfonçait encore un peu plus dans sa léthargie industrielle. Le Nikkei a franchi un nouveau sommet à plus de 52 000 points, un gain de 15% sur le mois, pendant que le Kospi coréen se ferait un plus 20% en octobre. L'Asie high-tech s'envole, portée par la fièvre IA venue des States, pendant que les futurs américains rebondissent, galvanisés par les résultats d'Apple et d'Amazon. Mais tout n'est pas rose à l'Est. La Chine déprime, son PMI manufacturier s'est contracté pour le 7e mois consécutif. Preuve que la machine tourne au ralenti malgré les promesses de relance de Pékin. Les indices chinois ont tous reculé. Shanghai, moins 0,74% et le Hang Seng, moins 0,9%. Et l'optimiste, lui, il est resté bloqué à la douane. Pendant ce temps, Tokyo publie une inflation à 2,8% supérieure aux attentes, ce qui met encore un peu plus la Banque du Japon dans la sauce. Elle garde ses taux inchangés, mais tout le monde sait qu'elle va devoir bouger un jour ou l'autre. Pour le reste, le pétrole est à 60$, l'or repasse les 4000$ en montant, le bitcoin est à 110 000 et le rendement du 10 ans américain est à 4,10. En dehors des mégastars, il y avait aussi du monde qui publiait mais qui se faisait un peu moins remarquer. Eli Lilly a ouvert le bal en pulvérisant les attentes. 7,02$ de bénéfices par action contre 5,89 attendus. Il y a un chiffre d'affaires de 17,6 milliards en hausse de 54%. Le titre s'envolait de 3,8%. Le marché a clairement un faible pour les labos qui impriment du cash. C.H. Robinson, le logisticien, fait encore plus fort, plus 20% après des marges améliorées et un bénéfice au-dessus des attentes malgré un chiffre d'affaires un peu mou. La boîte a même relevé ses prévisions pour 2026. Cardinal Health cartonne aussi. Résultats solides, perspectives rehaussées, plus 15%. Guardant Health grimpe de 28% grâce à un bond des revenus dans le dépistage du cancer. Et pendant que tout le monde fête, Metsera s'envole de 22% après une offre à 9 milliards de dollars de Novo Nordisk bien décidé à damer le pion à Pfizer dans la bataille des pilules anti-obésité. Finalement, la seule ombre au tableau, c'est Roblox qui s'écrase de 16% après des chiffres que l'on va qualifier d'insatisfaisants. Il y avait également la BCE qui se réunissait hier. La BCE a donc fait ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire rien. Les taux restent plantés à 2% comme prévu et Christine Lagarde a soigneusement évité de dire ce qu'elle comptait faire ensuite. Traduction, on attend, on regarde et on verra bien. Mais on attend. Les marchés, eux, continuent de rêver à une dernière petite baisse des taux avant la fin de l'année parce qu'il faut quand même bien espérer quelque chose. L'euro, lui, fait la gueule, moins 0,3% à 1,159 contre dollar, pendant que les taux européens bougeaient à peine comme s'ils avaient eux aussi piqué du nez pendant la conférence de Christine Lagarde. Côté chiffres, nous aurons les retail sales en Allemagne, le CPI en France et en Europe, le CPI français qui devrait être légèrement en dessous du taux de popularité du président. Et pour les sociétés, c'est la fin de la semaine. Il n'y aura donc rien ce soir. Mais avant l'ouverture, nous aurons Exxon, ABB, BYD, Chevron et PetroChina. Pour le moment, les futurs sont toujours en hausse grâce à Apple et Amazon. Ce dernier jour du mois d'octobre, nous devrions bénéficier d'un rebond pour fêter les chiffres d'hier. Et puis ensuite, on prendra 2 jours de congé histoire de se poser et de bien organiser notre argumentaire pour savoir si on continue à acheter en novembre, la saison du Christmas Rally approchant avec insistance. Allez, il nous reste 2 mois avant 2026 et plus que 3 ans de présidence à Trump, normalement. Excellent week-end à tous et à lundi.